Les arnaques sur Internet et sur les réseaux sociaux, c'est malheureusement très courant, Marie Tchoumi, mais celle dont vous nous parlez aujourd'hui est d'autant plus redoutable qu'elle est très bien ficelée.
Je vous laisse juger, mais à mes yeux, c'est un bon exemple qui montre à quel point il est difficile aujourd'hui d'identifier un coup monté. En l'occurrence, l'arnaque se passe sur Messenger, c'est la messagerie de Facebook. Et ça commence comme ça, avec un message d'un de vos contacts qui vous écrit « Coucou, est-ce que tu peux me rendre un service, s'il te plaît ?» C'est suivi, vous savez, du petit smiley qui donne un bisou en forme de cœur.
Envie d'aider.
Voilà. Vous vous dites, tiens, c'est un peu curieux, mais bon, c'est un ami, donc je l'aide volontiers. Du coup, vous répondez, oui, bien sûr, je veux bien te rendre service. Et là, en réponse, il vous dit, mon attel est bloqué et le service client me demande de recevoir mon code PIN chez quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas d'autre téléphone pour le recevoir, j'ai juste besoin de ton numéro, si ça ne te dérange pas, bien sûr.
Alors, mais si c'est un copain, normalement, il a votre numéro, non ?
Ouais, c'est là que c'est plutôt bien fait. Si son portable est effectivement bloqué, ben, il n'a plus accès à ses contacts.
Ah, voilà. Ouais.
Donc c'est assez logique qu'il passe par Messenger, qui est accessible directement depuis son ordinateur.
Donc à ce moment-là, si on reprend la chose, rien ne laisse vraiment penser que c'est une arnaque.
Alors tout dépend. Personnellement, j'en ai été victime. Et en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que la personne qui m'a contacté, elle ne fait pas partie de mon premier cercle de proches. Donc assez vite, je me suis étonnée qu'il me contacte moi. Maintenant, si ça avait été mon meilleur ami, alors là, ça aurait été différent. Sans doute que je serais tombée dans le piège.
Avec probablement des conséquences financières à la clé. Bonjour Nicolas Verna.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Redstone Consulting à Genève, société de conseil spécialisée en protection des données et en cybersécurité. Merci beaucoup de nous rejoindre quelques minutes en duplex. Alors, cette arnaque dont vient de parler Marie Tchoumi, vous la connaissez ?
Oui, c'est une des nombreuses arnaques dont le but est de récupérer le numéro de téléphone de la victime. Il y en a souvent d'autres très similaires où on essaye de gagner un iPad ou un iPhone et le procédé est à peu près le même.
Donc c'est fréquent ?
Oui, de plus en plus. Et puis là, on voit depuis quelques mois aussi une augmentation de ce type d'attaque. Parce qu'après, il faut savoir, tous les 6 mois, il y a un peu une nouvelle attaque qui arrive sur le marché.
Ils sont plutôt ingénieux. Si on transmet notre numéro de téléphone, qu'est-ce qu'on risque ?
Alors, bon, l'idée là, c'est souvent des gens qui veulent un numéro de téléphone pour pouvoir valider une inscription. Puisque très souvent maintenant, les inscriptions sur Internet se font avec 2 facteurs et on reçoit un petit PIN, un message sur le Natel en fait pour valider une inscription. Donc les gens vont simplement chercher à s'inscrire sur des sites en utilisant votre téléphone et très souvent on va tomber sur des sites de type Craigslist qui est un fameux site américain très fréquemment finalement pour vous envoyer de la pub.
Et très concrètement, si on reçoit ce genre de message, qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement? Contacter notre soi-disant ami qui s'est fait pirater? Il faut le bloquer, le signaler?
Le signaler ou le bloquer, à part lui poser des problèmes sur Facebook, ça ne va pas faire grand-chose. Par contre, effectivement, le contacter si c'est dans votre premier cercle, comme vous le disiez. Et puis si c'est dans le deuxième ou le troisième cercle, je dirais que voilà, on ignore le message et puis voilà.
Il est 8h39 sur la première. Nous parlons d'arnaque sur Internet avec vous, Nicolas Verna, spécialiste en protection des données et cybersécurité. Alors, on vient de voir qu'en fait, il y a 2 potentielles victimes dans cette histoire. Il y a l'utilisateur, puis il y a la personne dont le téléphone s'est fait pirater. Qu'est-ce que cette personne-là doit faire de son côté, Nicolas Verna ?
Le premier truc à faire, c'est de changer son mot de passe. Enfin, de manière générale, il ne faut pas avoir le même mot de passe partout. Ça, je pense que c'est du bon sens. Mais après, voilà, changer son mot de passe pour remettre un mot de passe un peu plus complexe, ce sera la première chose à faire, effectivement.
Mais il doit se créer un nouveau compte. Là, en l'occurrence, c'était Facebook, hein, enfin Messenger qui fonctionne via le profil.
Tout à fait. Alors, il y a plein de méthodes sur Messenger, entre autres, mais sur les autres réseaux, c'est pareil. Pour récupérer finalement son compte, il y a des liens sur Internet qui permettent de récupérer son compte via justement son téléphone. Donc, il recevra probablement un message sur son téléphone de Messenger afin de réactiver son compte et de pouvoir changer son mot de passe.
On l'a dit aussi, c'est plutôt bien ficelé. Hein. Là, en l'occurrence, je disais que j'en ai été victime et puis c'était pas un très bon copain. Donc je me suis dit, pourquoi il me contacte ? Désolée s'il m'entend, mais pourquoi il me contacte moi ? Comment on se rend compte d'une telle arnaque ?
Moi, je dirais que de manière générale, sur Internet, on ne demande jamais de numéro de téléphone, de numéro de carte de crédit, de choses comme ça. Donc, du moment où vous recevez un message qui vous demande un numéro de téléphone, une carte de crédit ou autre donnée personnelle, voilà, vous pouvez à 95% vous dire que c'est pour de faux.
Nicolas Vernin, est-ce qu'on est toutes et tous susceptibles d'être attaqués de cette manière ou est-ce qu'il y a des gens qui sont particulièrement ciblés ?
Non, je pense qu'aujourd'hui, il vise assez large. Il lance ces types d'attaques de manière extrêmement large à beaucoup de monde en espérant ratisser le plus large possible. Et pour ne pas vous cacher, j'ai des proches à moi qui se sont fait avoir aussi récemment.
Juste une chose, on risque de perdre beaucoup d'argent, ça peut aller loin.
Ça peut aller loin si vous donnez un numéro de carte de crédit, oui, effectivement, les gens vont s'en servir pour acheter des choses en ligne. Donc voilà, donc encore une fois, de manière générale, on ne partage ni son numéro de téléphone, ni ses numéros de carte de crédit, ni données personnelles sur Internet.
Muriel Mera, qui est en studio avec nous, a une question pour vous, Nicolas Vernin.
Quand vous parlez des cartes de crédit, si je partage mon IBAN, là je risque pas grand-chose.
L'IBAN, en tant que tel, il va pas vous poser tant de problèmes. Après, c'est une donnée personnelle qui pourra peut-être être exploitée pour vous attaquer autrement, puisqu'on aura cette information sur vous, peut-être qu'on pourra se faire passer pour la banque en connaissant votre IBAN. Donc ça pourrait être détourné pour un autre type d'attaque.
On profite de votre présence, Nicolas Vernin, pour vous demander peut-être encore quelques conseils plus généraux sur la sécurité, notamment avec les téléphones portables.
Oui, donc comme je le disais, sur Internet, de manière générale, on essaie d'avoir des mots de passe différents suivant les sites et des mots de passe complexes, sans non plus trop complexes, parce que sinon on sait tous qu'on les écrit sur un post-it derrière l'écran.
Qui a fait ça autour de la table.
Ouais. Et puis sur le Natel, pareil, un code PIN, on active la reconnaissance faciale ou tous les autres mécanismes qui pourraient rendre finalement l'attaque un peu plus complexe.
Merci beaucoup Nicolas Vernin d'avoir été avec nous en direct de Genève. On rappelle que vous êtes directeur de Redstone Consulting, agence de conseil en protection des données et en cybersécurité. On vous souhaite une très très bonne journée.
Merci beaucoup.